bonjour à toutes et à tous. Et si l'économie nous permettait de créer un monde meilleur ? Cette semaine dans Entendez-vous l'écho, nous partons à la recherche d'une économie plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Demain, on se demandera comment réconcilier la santé et la croissance. Puis il sera question de finances vertes et d'investissement dans l'avenir. Jeudi enfin, nous verrons comment changer l'individu pour changer le monde. Mais d'abord, ouvrons cette nouvelle année avec une table ronde d'actualité économique. Après l'année noire qui vient de s'écouler, l'horizon va-t-il s'éclaircir en 2021 pour l'économie française? C'est la question qui nous intéresse jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Parler de l'objectif 2021 de relance de l'économie, nous avons le plaisir d'accueillir à distance trois économistes. Alexandra Roulet, professeure à l'INSEAD, l'Institut européen d'administration des affaires. Anne-Laure Delatte, chargée de recherche au CNRS et enseignante à l'Université Paris-Dauphine. Et Nadine Levrato, directrice de recherche au CNRS. Une émission à écouter en direct ou à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors l'éditorialiste Jean-Marc Vittori le rappelait dans Les Échos, on a d'abord commencé cette année par sous-estimer l'impact économique de la pandémie au mois de janvier, février. Puis on a parlé d'une chute de l'activité qui pourrait atteindre 20%. La réalité se situe finalement entre les deux, Alexandra Roulet ?
Alors en fait, je pense que pour l'année 2020, elle se caractérise par deux particularités. La première, c'est qu'on a connu des confinements pendant lesquels, en particulier le premier, l'activité s'est complètement arrêtée. Et donc, une chute du PIB qui a été extrêmement forte et sans précédent du fait de ces confinements et de ces mesures de restriction liées aux contraintes sanitaires. De ce point de vue-là, 2021 ne pourra être que meilleur. Puisque, et ça va dépendre, on aura sûrement l'occasion d'y revenir en partie en grande partie de la rapidité avec laquelle une partie de la population pourra être vaccinée, a priori, il y aura plus de confinement et donc plus de chute comme ça brutale de l'activité. Simplement, il faut aussi avoir en tête que 2020, ça a été une année où l'État est intervenu très très massivement pour absorber quand même le choc de la pandémie. Donc c'est vrai qu'on l'a pas vu venir, mais dès qu'elle a été là au mois de mars, il y a eu un soutien de l'économie, il y a eu un soutien de l'État à l'économie sans précédent. Ce qui fait que, du point de vue de l'emploi salarié, du point de vue des faillites, l'année 2020 aura été finalement meilleure que peut-être ce qui va se passer en 2021. Donc si on prend, ne serait-ce que par exemple, les faillites, en 2020, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les faillites ont été 30% inférieures à ce nombre de faillites en 2019. Et ça, c'est lié au fait que l'État a permis, par le fonds de solidarité, par tout un tas de mesures, d'aider les entreprises, par les reports de charges, etc., d'aider les entreprises. Donc sur tout un tas d'aspects, si vous voulez, on a eu une année 2020 qui sera probablement meilleure en termes de chiffres que ce qu'on va connaître en 2021, en tout cas en ce qui concerne l'emploi et les faillites. Mais au niveau du PIB, évidemment, il y aura probablement pas de confinement en 2021 et donc la chute du PIB aura été sans précédent en 2020 et on va avoir un rebond en 2021.
Le PIB français devrait baisser de 9% en 2020, mais vous êtes d'accord, Anne-Laure Delatte, avec cette idée que 2020 aura finalement peut-être été, le choc aura été peut-être moindre qu'il ne le sera en 2021 concernant notamment les faillites et l'emploi?
C'est vrai que c'est vraiment intéressant de présenter la situation comme ça parce que finalement c'est vraiment très inédit. C'est-à-dire que quand vous dites le PIB va avoir une reprise, un rebond, à moins qu'on ait des reconfinements et une situation sanitaire qui s'empire, hein, ce qui n'est pas complètement exclu quand même. Hein. Tant qu'on n'a pas de solution de vaccination, on n'est pas à l'abri d'un reconfinement. Et vous voyez bien que la situation évolue de jour en jour. Hein, et donc Si on a un enseignement, c'est que
il faut rester prudent.
On a une forte incertitude dans l'avenir et qu'il ne faut pas être surpris par les surprises. Bon, mais maintenant, c'est vrai que c'est une façon très intéressante de présenter la situation, puisque vous avez à la fois un fort espoir de reprise. Et là, c'est automatique, c'est-à-dire qu'on a une telle chute d'activité en 2020 que, toute chose égale par ailleurs, si on n'a pas de reconfinement, bah, automatiquement, on va avoir une reprise d'activité, une croissance très soutenue. Et à côté de ça, puisque, comme vient de l'expliquer Alexandra, l'État a fait preuve d'énorme soutien à l'économie en 2020, à côté de ça, la vague finalement va se retirer et on va voir une montée du chômage et une montée des faillites. Et là, c'est vrai que c'est très étonnant parce que finalement, il y a eu moins de faillites en 2020 que les autres années. Mais c'était lié à un soutien budgétaire de l'État qui a été un excellent réflexe que tous les États avancés ont eu. Ce qu'il faut maintenant absolument avoir en tête, et il va falloir être attentif à ça, c'est de ne pas revenir à des réflexes de bonne gestion des finances publiques trop rapidement et qui pourrait en réalité être extrêmement négatif pour l'activité. Mmh. Si vous voulez, on commence à voir un peu des notes qui essayent de quantifier l'effet multiplicateur des dépenses publiques sur l'activité et on a très peur que le retrait du soutien soit trop brutal et que finalement l'activité économique en pâtisse en 2021.
Alors on va en parler, mais d'abord Nadine Levrato, sur l'ampleur du choc subi par notre économie en 2020 et sur ce à quoi il faut s'attendre pour 2021.
Oui, alors l'ampleur du choc, elle est immense. Hein. C'est un choc d'une violence extrême puisque aucun des moteurs habituels de la croissance interne ou externe n'a fonctionné depuis décembre dernier, puisque les premiers signes de la crise en Asie apparaissent en décembre 2019. Donc la Chine et l'Asie du Sud-Est reprennent un petit peu, mais ça reste encore inférieur à ce qu'il y a d'habitude. Donc on a vraiment un choc d'une grande ampleur, moins 9% de PIB, et surtout des pertes d'emplois qui sont massives. Selon les sources, entre 760 000 et à peu près 1 million d'emplois perdus au cours de l'année 2020. C'est absolument exceptionnel et il y a débat sur les hypothèses de croissance dont on sait dans tous les cas qu'elles ne permettront pas de renouveler les emplois qui ont été détruits. Donc bien sûr les faillites ont été 37% inférieures à celles qu'on avait à la même date l'année dernière grâce au soutien massif de l'État dont tout le monde a souligné l'ampleur et l'efficacité en matière de défaillance, mais les entreprises qui sont à l'arrêt, si la croissance ne repart pas, ne pourront pas faire face aux échéances des prêts garantis et surtout avec l'incertitude qui prévaut en matière de reprise de l'activité et de la demande et de quel type de demande risque d'avoir des effets notables également sur l'investissement. Donc, ce qui est absolument inquiétant au-delà des entreprises et des personnes morales, c'est la situation des personnes physiques, des ménages, avec un taux de chômage donc qui va être autour de 10,5-11%, un taux de pauvreté qui explose. Hein, il suffit de lire les rapports des organismes, depuis les Restos du Cœur jusqu'au Secours Catholique, pour voir que des personnes qui n'avaient jamais fréquenté les centres d'aide sont aujourd'hui en demande
En demande d'aide alimentaire. C'est vrai, Nadine Levrato, et il va falloir effectivement évoquer cette question, et notamment la question de la pauvreté des étudiants, qui sont peut-être parmi les plus grands oubliés de ces aides. Mais d'abord, je voudrais vous entendre, Alexandra Roulet, sur la nécessité de ces aides, du prolongement de ces mesures d'aide. On comprend bien que la reprise et que les défaillances d'entreprises dépendront beaucoup du prolongement de ces aides, donc le chômage partiel notamment, et aussi le fait de remettre à plus tard le remboursement de ces fameux prêts garantis par l'État.
Oui, alors il y a deux questions donc vous avez tout à fait raison et Anne-Laure Delatte l'a bien mentionné, qui est que la question clé de 2021, ça va être le tempo, le rythme auquel l'État va progressivement se désengager et de toutes les mesures qu'il avait mis en place pour 2020. Et il y a en effet un fort risque d'aller trop vite. Alors je pense que il y a aussi un bon espoir que, comme beaucoup d'économistes disent qu'il ne faut pas aller trop vite, peut-être que l'État, le gouvernement prendra ces avis en compte, mais disons que, en effet, il y a un fort risque d'aller trop vite, un peu comme le disait Anne-Laure Delatte, par réflexe de respect des normes budgétaires. Et là, ce serait une grave erreur parce qu'on risquerait d'aggraver vraiment très durablement la situation. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'entreprises qui ont pu survivre grâce à l'aide de l'État, mais, et c'était le deuxième point de votre question, au prix d'un gros endettement, au prix de prêts, soit de reports de charges sociales, fiscales, soit parce qu'elles ont contracté des prêts garantis énormes, sans précédent. Et donc, on va avoir toutes ces entreprises qui vont être très endettées, qui n'auront pas fait faillite, mais qui, du fait de cet endettement, soit pourront pas rembourser, soit pourront pas investir, pourront pas embaucher, etc. Donc il va falloir non seulement se désengager doucement pour l'État, mais songer très sérieusement à une réduction en fait de ces dettes, quoi, une restructuration de toutes ces dettes qui ont été accumulées au cours de l'année 2020. Donc c'est-à-dire concrètement, je pense que l'État devra abandonner une partie de ses créances. Je pense que donc par exemple certaines charges sociales qui n'ont pas été payées, il faudra que l'État envisage d'y renoncer complètement, pas juste de différer l'échéance, et puis inciter au maximum les créanciers privés, donc les banques, à renégocier certaines de leurs à abandonner certaines de leurs créances.
Mais alors justement, sur les créanciers, Alexandra Goulet, c'est important de voir que si les aides de l'État sont insuffisantes, les aides de l'État aux entreprises, cette crise risque de se répercuter sur les créanciers des entreprises et de se propager sur le reste de l'économie et même dans la sphère financière. Anne-Laure Delatte.
Oui, enfin, les banques s'en sortent pas trop mal quand même. Enfin, je pense que, enfin, disons qu'elles sont, à mon avis, elles peuvent absorber une partie des pertes, quoi.
Anne-Laure Delatte sur cette question.
Oui, Alexandra Roulet vient de le mentionner. C'est assez étonnant hein, par rapport à 2008. Étonnant, mais finalement, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la réglementation financière, parfois, ça marche. Et en réalité, les banques s'en sortent beaucoup mieux qu'après la crise de 2008 pour deux raisons. La première, c'est que ça n'est pas une crise financière, hein, évidemment, qu'on a subi, mais c'était un choc pandémique, complètement exogène, qui n'avait rien à voir avec la finance. Donc, le choc étant de nature différente, évidemment, les premiers acteurs impactés ne sont pas les acteurs financiers. Mais, effectivement, au tout début de la crise, on a eu peur que les faillites en chaîne dans le secteur réel aient un impact sur la qualité des bilans bancaires et des bilans des intermédiaires financiers en général. Et là, je reviens à la bonne nouvelle de la réglementation financière. En réalité, on a mis en place des mesures depuis 2008 consistant à construire, accumuler en fait des coussins pour absorber les chocs, donc des coussins de capital réglementaire dans les bilans bancaires qui leur permettent d'absorber ce genre de chocs. Donc, en réalité, vraiment, les banques sont beaucoup plus solides aujourd'hui que si le choc avait eu lieu il y a une dizaine d'années. Donc là, ça n'est pas un point de vigilance, en tout cas, ça n'est pas prioritaire sur la liste des points de vigilance aujourd'hui. Le sujet, il est vraiment dans l'économie réelle. Et là, je pense que Nadine Nevrato ou Alexandra Roulet en parleront mieux que moi, mais ça va vraiment engager des transformations structurelles dans l'économie française. C'est-à-dire que vous allez avoir des secteurs qui vont avoir beaucoup de mal à se relever. On pense évidemment à certains services et à l'hôtellerie, à la restauration, et d'autres secteurs qui auront finalement beaucoup bénéficié du choc et des confinements.
Mais si l'on en croit Emmanuel Macron, Anne-Laure Delatte, la relance frémit déjà en France. Je vous propose d'écouter le président lors de ses vœux aux Français.
L'espoir est là. Et l'espoir grandit chaque jour dans cette relance qui déjà frémit en France plus qu'ailleurs et qui va nous permettre, dès le printemps, d'inventer une économie plus forte, tout à la fois créatrice d'emplois, plus innovante, plus respectueuse du climat et de la biodiversité et plus solidaire. En luttant contre le virus, en nous battant contre ses conséquences économiques et sociales, en refondant une société plus forte, fraternelle et durable. C'est la France de 2030 que nous bâtirons.
Voilà, cette relance qui frémit en France plus qu'ailleurs, nous dit Emmanuel Macron. Alexandra Roulet, par rapport aux autres pays européens, est-ce qu'il faut considérer que la reprise française devrait être plus vigoureuse? Alors, je ne me demande pas non plus si ce sera une reprise en U, en K, en L ou en W. Hein. On a vu tous les débats cette année qui étaient sur cette question. Mais est-ce qu'on considère que la France a aujourd'hui davantage la capacité de rebondir que ses voisins?
Je sais pas si je dirais ça. Bon, ce qui va être assez clé, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question des plans de relance. Donc, pour l'instant, on a plutôt parlé des plans d'aide pour absorber le choc de 2020 et de comment assurer la transition vers une situation plus normale. Mais en parallèle, et c'est assez différent, il y a donc évidemment chaque pays européen qui a décidé d'investir en fait dans l'économie, justement pour développer des nouveaux secteurs, pour favoriser l'innovation, créer des emplois. Donc ça, c'est les plans de relance. Et donc la France a annoncé son plan de relance assez tôt par rapport à certains de ses voisins. Donc peut-être qu'il y a quand même beaucoup d'espoir qu'on peut placer dans ces investissements très massifs que le gouvernement va faire. Enfin, on n'avait jamais des ordres de grandeur pareils dans le passé. Simplement, il faut le rappeler, je sais que je l'ai déjà évoqué, mais c'est quand même très très clé que la reprise dépendra quand même avant tout de la fin de la pandémie et donc de la levée de toutes les mesures de restriction qui sont liées à la situation sanitaire. Donc de ce point de vue-là, il y a bien sûr toute une série de mesures économiques qu'il faut quand même prendre et tous ces investissements de l'État sont absolument nécessaires, mais il faut aussi rappeler une fois de plus en fait l'urgence à vacciner très rapidement une partie de la population qui est la seule façon finalement d'être sûr de se débarrasser de cette épidémie.
Selon le cabinet britannique Oxford Economics, l'Union européenne devrait être capable de vacciner les personnes vulnérables, c'est-à-dire environ 30% de la population d'ici à la fin du premier semestre. Mais ce que l'on observe, c'est qu'il y a évidemment des différences importantes selon les pays. Aujourd'hui, il y a eu seulement 500 personnes qui ont été vaccinées en France. On voit que c'est encore assez peu rapide. Et puis, l'autre enjeu important, c'est évidemment la capacité à consommer et la capacité des consommateurs à mobiliser leur épargne. Il y a eu une épargne accumulée d'un côté, Nadine Levrato, et puis de l'autre, il y a aussi toute une partie de la population qui s'est appauvrie.
Oui, bien sûr. Alors auparavant, je voudrais quand même signaler deux points. Le premier, c'est celui des exonérations de cotisations sociales. Faire un moratoire sur le paiement des cotisations sociales qui ont été gelées pendant l'année 2020, ça va être assez difficile parce que ce serait mettre en péril l'ensemble du régime de protection sociale et il faudra bien trouver un moyen de compenser puisque ce n'est pas dans le budget de l'État mais dans celui des organismes de sécurité sociale. C'est une dette qui n'est pas portée par l'État directement, si vous voulez. Donc, il va falloir trouver un moyen d'identifier un payeur en dernier ressort dans le cas où les entreprises seraient définitivement exonérées de cette dette. Le deuxième point, c'est sur le chômage et l'activité partielle de longue durée. Tout le monde n'en a pas profité. Alors, on a beaucoup parlé de certains abus, mais il y a également des situations dans lesquelles l'activité partielle ne va pas pouvoir fonctionner de façon durable, et notamment tous les intérimaires qui ont été de fait exclus, et ils sont très nombreux dans l'industrie. Ce qui m'amène à répondre à votre question sur l'épargne et la pauvreté. Alors, on a beaucoup parlé de montants d'épargne des ménages, mais aussi des entreprises d'ailleurs, qui ont été sans équivalent au cours de l'an dernier. Il faut quand même préciser que pour ce qui concerne les ménages, cette épargne est limitée à une toute petite partie de la population. Et c'est ce qui va aussi poser des problèmes pour la suite, puisque les plus gros épargnants sont ceux dont la propension à consommer est la plus faible. C'est-à-dire que même lorsqu'il y aura une reprise, ils ne vont pas acheter trois fois plus de paquets de pâtes parce que l'économie est libérée. Et donc cette épargne va rester soit placée sur les marchés financiers, soit être investie dans d'autres actifs. On voit l'envolée du Bitcoin, mais il y a aussi l'immobilier qui peut servir de valeur refuge, les métaux, etc.
Alors ça, c'est un point extrêmement important, Nadine Levrato, que vous soulevez ici, parce qu'effectivement, à quoi va servir cette épargne? Est-ce qu'elle devrait permettre de relancer la croissance, sinon en 2021, du moins en 2022, en 2023? Il y a un certain nombre d'économistes qui disent cela. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Laure Delatte?
Alors, moi, je suis assez sceptique sur la capacité de l'épargne des très riches à financer ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire une transformation structurelle de l'économie. Pourtant, on pourrait imaginer tout un tas de mesures qui permettraient d'inciter ce genre de comportement.
Mais il n'y a quand même pas que les très riches, Anne-Laure Delatte, qui ont pu épargner. Il y a beaucoup de consommations empêchées qui pourraient survenir en 2021 et dans les années qui suivent.
Alors là, on a les chiffres, hein, et c'est ce que disait Nadine à l'instant, c'est-à-dire que bon, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est que un Français sur cinq a épargné 70% de ce qui a été épargné pendant les confinements, c'est-à-dire c'est une épargne forcée. En fait, les très riches n'ont pas pu aller au restaurant, n'ont pas pu partir en week-end à l'étranger ou au bord de la mer. Pour le faire de façon très caricaturale. Et un Français sur cinq, non seulement n'a pas épargné, mais s'est endetté. Donc s'est appauvri, en réalité. Donc, et au milieu, les trois autres Français, finalement, ils ont accumulé à peine 30% de cette épargne forcée. Donc on a envie de concentrer les efforts sur les très riches. Et puisque Nadine Levrato vient de l'expliquer, les très riches ont une tendance à consommer, donc ils ont une propension marginale à consommer plus faible que les plus pauvres. Et ça, c'est facile à comprendre, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté tout ce dont vous aviez besoin, quand vous êtes très riche, vous épargnez le reste. Et donc là, on a envie de se dire, cette épargne, elle pourrait être transférée par les marchés financiers vers des investissements qui vont permettre de transformer l'économie vers une économie plus soutenable, financer des investissements qui vont permettre de produire en émettant moins de carbone, etc. Et là, pour l'instant, sans conditions favorables, incitatives à changer les comportements d'épargne, je ne vois pas très bien comment ça peut avoir lieu. Pourquoi ? On a des résultats aujourd'hui sur comment est utiliser l'épargne des très riches. Et ça, ce sont des résultats qui sont assez récents et qui sont assez difficiles à établir parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, on a assez peu de données sur la façon dont est allouée l'épargne et où qui détient les actifs financiers, où est-ce que ça va, etc. En fait, on a des données, mais vous savez, ce sont des chaînes très très compliquées à reconstituer. Et l'image qu'on commence à avoir, c'est que quand les très riches épargnent, c'est-à-dire qu'ils épargnent et qu'ils placent sur les marchés financiers, eh bien cette épargne-là, elle va financer la dette des plus pauvres. Donc elle va assez peu financer de l'investissement productif et de l'investissement qui pourrait permettre de transformer la structure de l'économie. Une grosse partie va financer, va en fait prêter de l'argent aux plus pauvres pour qu'ils puissent continuer à consommer. Et ça, ce sont les travaux notamment d'Atif Mian à Princeton qui ont montré ça récemment. Donc bon, pour le dire autrement, c'est exactement ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'il faudrait être capable de canaliser l'épargne et l'énorme épargne qui est en train de s'accumuler auprès des plus riches ménages, il faudrait être capable de la transférer et de la canaliser vers l'investissement productif. Et pour l'instant, ça n'est pas ce qui a lieu.
Alors parmi les populations qui se sont le plus appauvries au cours de cette année, il y a évidemment les étudiants.
Début octobre, mi-octobre, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen pour manger plus facilement. À la rentrée étudiante, du coup, j'avais mes bourses et j'avais mon travail de babysitter. Du coup, je pensais pas vraiment avoir besoin d'aller à des distributions alimentaires. Et mais du coup, heureusement qu'elles existent, parce qu'avec le confinement, bah, j'ai perdu mon travail de babysitter.
Ici, on a commencé la distribution depuis les débuts de la rentrée universitaire et tous les mois, ça augmente de 50% le nombre d'étudiants qui font la queue. Là, très clairement, il y a une crise sanitaire qui a débouché sur une crise sociale et dans les nouveaux précaires, les gens qui n'avaient pas prévu d'être dans cette difficulté, il y a beaucoup d'étudiants et on essaye de trouver une aide adaptée à ce public, une aide spécifiquement dédiée aux étudiants. On est en 2020, il y a des centaines de milliers d'étudiants qui doivent faire le choix entre leurs études et manger. Et c'est pas possible, c'est inacceptable. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on s'est mobilisé. Notre initiative, elle vise aussi à créer un filet de sécurité. Parce que un pays qui fait pas attention à sa jeunesse, c'est un pays qui a pas d'avenir.
Voilà des témoignages recueillis par le site Brut le 1er décembre dernier. Nadine Levrateau, est-ce que les étudiants ont été les grands oubliés des plans d'aide ?
Les étudiants et les jeunes en général ont été les grands oubliés, restent les grands oubliés dans la situation actuelle, dans le sens où, bien sûr, il y a eu le confinement, la fermeture des lycées et des universités qui continuent d'ailleurs, hein, mais également sur le plan de l'aide financière dont ils ont bénéficié, on peut s'étonner du peu de moyens débloqués face aux 10 milliards d'euros d'exonération d'impôts sur la production. On a quelques centaines de millions d'euros qui sont alloués à l'aide sociale. Et le problème, c'est que cette situation extrêmement précaire des étudiants et des lycéens qui arrivent tout près du bac va avoir des répercussions extrêmement durables. Là, on a des travaux qui sont récents du Fonds monétaire international, donc Hans Fant et Till von Wachter, qui montrent que les jeunes qui entrent sur le marché du travail en période de récession subissent les conséquences des difficultés à l'entrée sur le marché du travail pendant 10 ou 15 ans. Et que ces conséquences sont monétaires, bien sûr, puisqu'il y a une perte de revenus qui va s'étaler sur 10 à 15 années suivant la première embauche, mais que cela va aussi avoir des répercussions sur leur état de santé, leur état psychologique. Et donc, on commence à avoir des éléments bien documentés. Or, ces éléments portent sur la dernière crise qui a été finalement beaucoup moins importante que celle que l'on observe aujourd'hui. Donc, on peut imaginer la situation d'une partie des jeunes, et pas seulement de ce que l'on a l'habitude de qualifier de décrocheurs, mais également ceux qui aujourd'hui sont en licence, voire master, qui vont subir une décote très rapidement, d'autant que s'il y a reprise, et on peut l'espérer, en 2021, les entreprises ne vont pas embaucher les étudiants qui sont sortis en 2020, mais ceux qui seront sortis en 2021. Donc on risque vraiment d'avoir un effet de promotion, hein, même pas de génération, de promotion, qui va être extrêmement violent. Et je crois qu'il est essentiel de prendre ce problème à bras-le-corps.
Alors face à ces perspectives qui ont de quoi inquiéter, quelles solutions s'offrent à nous pour redresser l'économie en 2021? Est-ce qu'il faut réindustrialiser la France, mettre l'accent sur la formation, creuser davantage la dette, voire même l'annuler? On en parle dans un court instant.
J'ai fait une banqueroute, oui j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma chemise ainsi que mon violon. Ma femme court après moi, elle dit mon cher Gédéon, vends ta chemise puis tes pantalons, mais je veux que le violon reste à la maison.
Vends ta chemise puis tes pantalons, mais je veux que le violon reste à la maison.
J'ai fait une banqueroute, oui j'ai fait une banqueroute. Vendu mes souliers ainsi que mon violon. Ma femme court après moi, elle dit mon cher Gédéon, va tes souliers puis tes chaussons, mais je veux que le violon reste à la maison.
Va tes souliers puis tes chaussons, je veux que le violon reste à la maison.
J'ai fait une banqueroute, oui j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma vache ainsi que mon violon. Ma femme court après moi, elle dit mon cher Gédéon, vends ta vache puis gros cochon, mais je veux que le violon reste à la maison.
Vends ta vache puis gros cochon, mais je veux que le violon reste à la maison.
J'ai fait une banqueroute, oui j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma jument ainsi que mon violon. Ma femme court après moi, elle dit mon cher Gédéon, vends ta jument puis ton étalon, mais je veux que le violon reste à la maison.
Vends ta jument puis ton étalon, mais je veux que le violon reste à la maison.
J'ai fait une banqueroute par le chanteur québécois Oscar Tifo sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Notre réflexion sur la relance de l'économie en 2021 se poursuit. Nous sommes toujours en compagnie de Nadine Levrateau, Alexandra Roulet et Anne-Laure Delatte. Alors l'un des enjeux phares pour lutter contre le chômage et faire repartir l'économie, c'est la formation. On parlait de la situation des jeunes juste avant cette pause musicale et des voix s'élèvent aujourd'hui pour que les dispositifs de formation et de reconversion se développent au niveau local. C'est déjà en partie le cas, Alexandra Roulet, mais il faut peut-être aller beaucoup plus loin.
Oui, alors je voudrais juste rebondir un instant sur ce que disait Nadine Levrateau sur la situation des jeunes, donc à la fois pour renforcer cette idée qu'en effet les jeunes ont été vraiment sont toujours des grandes victimes de cette pandémie et qu'il y a des inégalités intergénérationnelles qui vont être vraiment creusées quoi de ce fait, mais pour aussi apporter quand même un tout petit bémol sur le fait que ils sont à la fois les probablement les premières victimes, mais en même temps ils sont pas totalement quand même oubliés des mesures de soutien, au sens où il y a eu tout un arsenal de mesures sous le grand chapeau un jeune une solution qui sont quand même nombreuses et il y en a certaines qui me semblent importantes de souligner, par exemple tout ce qui vise à favoriser l'apprentissage. On a vu les chiffres de 2020, on a beaucoup plus en fait d'apprentis, j'ai plus le chiffre exact en tête qu'en 2019, parce que les entreprises se sont quand même saisies de ces incitations à prendre des apprentis. Donc je pense qu'il existe quand même, en tout cas pour aider les jeunes, tout un certain nombre d'outils qui ont à la fois été utilisés, par exemple aussi développer le service civique. On pourrait embaucher beaucoup de jeunes dans des petits boulots pour aider à la vaccination, par exemple. Et donc à la fois des mesures qui existent, qui sont déjà utilisées, mais qui pourraient être renforcées. Donc ça c'est important. Il y a vraiment l'État a de quoi faire pour aider les jeunes. Et l'autre chose que je voudrais quand même souligner à ce sujet, et donc ça va un peu rebondir sur votre question sur la formation, c'est que il n'y a pas que les jeunes non plus qui sont affectés, et il faut c'est toujours assez difficile de définir cette population des jeunes et donc ou des étudiants même. Donc par exemple les dispositifs d'aide pour les jeunes que représente la prime à l'embauche pour les moins de 26 ans, où les entreprises peuvent toucher jusqu'à 4000 euros si elles embauchent un jeune de moins de 26 ans. On voit pas forcément la nécessité de mettre ce seuil de 26 ans, parce qu'on a un risque, comme toujours quand il y a une mesure qui s'arrête à un âge précis, de créer des effets de seuil. Donc on pourrait très bien envisager d'aider aussi les jeunes un peu plus âgés que 26 ans, qui avec peut-être une aide moins massive, mais qui existe quand même. Donc je pense qu'il faut élargir au maximum tous ces outils.
Et donc, sur cette question de l'échelle de la formation, de l'échelle la plus pertinente selon vous?
Eh ben, sur la question de la formation, je sais pas si, enfin bon, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a un aspect, je sais pas si la formation c'est l'enjeu numéro un. C'est à la fois, si vous voulez, un enjeu majeur, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il va y avoir des transformations structurelles importantes qu'il faut favoriser. Donc évidemment, pour tous les nouveaux métiers qui sont liés aux technologies du numérique ou à l'écologie, c'est vrai qu'il va y avoir des besoins en formation et il va falloir reconvertir un certain nombre de personnes. Et de ce point de vue-là, il y a le compte personnel de formation, tous les investissements qui sont réalisés à travers le plan investissement compétences qui cible les chômeurs et les personnes les moins qualifiées vont pouvoir aider. Mais en même temps, je ne sais pas si la crise actuelle, je ne sais pas si la formation est nécessairement le premier levier, et c'est toujours un levier important, c'est sûr, mais si vous voulez, là, la raison pour laquelle les gens vont perdre leur emploi ou ne pas en trouver, ça va être lié à une demande plus faible, des entreprises endettées qui n'arrivent pas à investir. Ça va être ça les obstacles les plus majeurs à l'embauche de nouvelles personnes, plus que, si vous voulez, un déficit de formation adéquate. Alors c'est sûr qu'il faut quand même, comme je le disais, former aux nouvelles compétences, mais je sais pas si la priorité là c'est de financer de nouvelles formations. C'est évidemment de permettre aux chômeurs, à travers des dispositifs qui existent déjà, et d'en bénéficier si c'est nécessaire, mais c'est surtout de libérer à la fois les entreprises de leurs dettes, mais aussi d'inciter à la création de jeunes entreprises, parce que une chose dont on n'a pas trop parlé encore mais qui est très importante pour l'emploi, c'est évidemment important d'éviter les faillites, mais il faut aussi se préoccuper du canal des entrées, c'est-à-dire.
Alors justement, c'est aussi la question de la réindustrialisation de la France. Alors je vois que vous parlez de création d'entreprises de façon plus large, mais je voudrais évoquer cette question avec Nadine Levrateau, puisque c'est l'une des hypothèses pour recréer des emplois. Le gouvernement a pris une série de mesures pour favoriser la compétitivité de l'industrie française. A été notamment décidé la baisse de 10 milliards d'euros par an des impôts de production. Pour vous, Nadine Levrateau, ce sont des mesures qui risque peut-être de ne pas avoir les effets escomptés.
Alors la désindustrialisation de la France est une longue histoire qui malheureusement n'a pas commencé avec l'épidémie de Covid, hein. Donc on date de 30 ou 40 ans le recul de l'industrie française. S'en préoccuper depuis quelques années est vraiment bienvenu, parce que on sait que un emploi industriel induit à peu près trois emplois dans les autres secteurs, dans le secteur tertiaire notamment. Donc il y a vraiment des efforts à faire. La question, c'est est-ce que le plan de relance est véritablement calibré pour soutenir cette industrie? On a à peu près 100 milliards qui ont été mobilisés, donc tout n'est pas nouveau, hein, puisque une partie vient du programme d'investissement d'avenir, une autre partie vient de BPI France. Donc la mission plan de relance ne mobilise pas que des nouveaux crédits. La baisse des impôts de production était réclamée depuis de nombreuses années par les organisations patronales. Donc ce n'est pas une réponse à la crise que nous connaissons. Mais lorsqu'on regarde dans le détail les 70 mesures du plan de relance, il y en a une grosse moitié, 40 à peu près, qui sont véritablement ciblées sur l'industrie. Et l'essentiel, donc, est représenté par cette fameuse baisse d'impôt sur la production, donc de la dépense fiscale, hein, pas de l'injection d'argent frais, mais c'est un manque à gagner pour les recettes de l'État qui peut d'ailleurs poser des problèmes en termes de ressources pour les investissements publics, et notamment pour les investissements publics locaux par les communes. Mais ces mesures qui sont pointées, ciblées sur l'industrie, ne sont pas très innovantes. Et c'est cela qui est remarquable, parce que d'un côté, on a un discours sur le fait qu'il faille innover dans l'industrie et tous azimuts, mais de l'autre, lorsqu'on regarde les outils de politique publique, ils ne sont finalement pas très novateurs, et ils consistent principalement en exonérations diverses qui sont déjà extrêmement nombreuses, hein, 150 milliards par an à peu près, donc on va en ajouter 10 milliards, mais est-ce que ça va radicalement changer les choses? On peut se poser la question dans la mesure où on...
Et surtout, est-ce que ça va créer des emplois, pardon Nadine Levrateau, parce que le problème c'est que, alors il y a la question de la réindustrialisation et puis la question de la relocalisation aussi, et le problème c'est que les entreprises qui pourraient être réimplantées en France devraient être largement automatisées et par conséquent finalement assez peu créatrices d'emplois.
Alors il y a l'industrie 4.0 en effet, hein, qui consiste donc à créer des usines avec beaucoup de robots et beaucoup moins de travailleurs, mais pour l'instant donc c'est une minorité de l'activité industrielle. L'essentiel de l'industrie est encore très très intensif en travail, d'autant que une grande partie ce sont des PME, donc qui sont plutôt moins capitalistiques que les très grands établissements. Ce qu'il faut, c'est empêcher l'industrie de partir. Alors, bien sûr, faire revenir des entreprises, c'est positif pour l'ensemble du tissu productif. Mais ce qu'il faut, c'est aussi stopper l'effilochement de ce tissu industriel qui touche les territoires aussi et qu'on ne voit pas compensé justement par les créations d'entreprises. Puisque on le voit bien, on a de longues années d'expérience malheureusement dans le Nord et le Grand Est. Quand vous avez un grand établissement qui ferme quelque part, comme Bridgestone, 820 et quelques emplois à Béthune, vous n'allez pas remplacer ces 820 emplois par des femmes de ménage et des bars tabac, hein, pour caricaturer. Donc la création d'entreprises, et là aussi c'est extrêmement bien documenté grâce aux enquêtes ciné de l'INSEE qui suivent des cohortes de nouvelles entreprises sur les 5 premières années d'existence, on voit très bien que quoi que l'on fasse, on a à peu près une entreprise sur deux qui ne dépasse jamais le cap des 5 ans, et que lorsque ces entreprises sont créées par des publics en difficulté, soit d'anciens chômeurs, soit des personnes qui étaient hors de l'activité auparavant, le taux d'échec est encore plus élevé. Donc, il ne faut pas voir dans la création d'entreprises, qui est aujourd'hui essentiellement le fait d'auto-entrepreneurs, une solution au chômage de masse que l'on connaît.
Vous parlez de manque à gagner fiscal, Nadine Levrato, et c'est effectivement une question qui est soulevée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à baisser les impôts pour rendre les entreprises plus compétitives au risque de diminuer les recettes de l'État, sachant que la dette publique française avec la pandémie a atteint 116% du PIB? Je vous propose d'écouter Jean Arthuis, le président de la Commission sur l'avenir des finances publiques, un groupe de 10 experts qui travaillent sur les moyens de redresser donc les comptes publics après le choc du coronavirus.
On commencera à rembourser dans 10 ans, dans 15 ans. Et pour en sortir, bien, il faut se préparer à transformer notre société. On a laissé proliférer une sphère publique qui est devenue trop importante. La gouvernance est en cause. La gouvernance, c'est l'organisation de la société, la façon dont nous prenons des décisions, les duplications, la multiplication des organismes, la complexité réglementaire, souvent source de dépenses supplémentaires.
Donc, par exemple, supprimer des élus, des fonctionnaires.
Il y a certainement, je supprime pas des fonctionnaires, mais probablement faut-il en réduire le nombre, car on y échappera pas. Ce qu'il faut, c'est développer l'idée de performance. Pour être sûr qu'il n'y a pas des doublons ici ou là, on le voit également. Ce pays est un pays hyper centralisé.
Voilà l'ancien ministre des Finances Jean Arthuis le 27 novembre dernier chez nos confrères de France Bleu. La commission qu'il préside doit rendre ses conclusions fin février. Anne-Laure Delatte, est-ce qu'à plus ou moins long terme, ce que l'on comprend ici, c'est que finalement il faudra renouer avec une certaine forme d'austérité?
Bon, d'abord un commentaire rapide sur cette commission et ce que le son que vous venez de passer, qui me semble vraiment très intéressant. Il n'y a aucun rapport entre le choc pandémique, l'énorme récession qu'on vient de subir, les difficultés pour la reprise et les transformations qu'appelle Jean Arthuis. Et c'est-à-dire que comme d'habitude, on utilise un événement lambda pour faire passer un message qui est il va bien falloir réduire les dépenses publiques et couper le nombre de fonctionnaires. Mais là, pour le coup, vraiment, il n'y a absolument aucun rapport. Et et revenons sur ce qu'on s'est dit au début de l'émission. L'essentiel, ce n'est pas de revenir et de baisser les dépenses publiques et de revenir à des finances publiques équilibrées. Au contraire, on n'a pas cité, par exemple, la tribune de Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE ce matin dans le Financial Times, mais c'est le même message qu'elle donnait que celui qu'on a donné en début d'émission. Non seulement il ne faut pas réduire les dépenses publiques, mais et ça n'est pas le moment de faire de l'austérité, mais au contraire, il va falloir essayer de prolonger le soutien à l'économie pour pouvoir encore une fois absorber le choc. Alors, donc ça, c'est le commentaire sur ce que vient de dire Arthuis. Et cette commission des finances publiques, c'est quand même un drôle de procédé parce que on a des parlementaires pour discuter de ça. On aurait pu organiser un débat démocratique de façon un peu plus transparente. La composition, elle est très idéologique. Et pour l'instant, on n'entend pas beaucoup parler des travaux et des réunions de ces experts.
Mais on entend bien, lors de là, qu'à court terme, la question de la réduction de la dette ne se pose sans doute pas et qu'il y a un consensus entre les économistes sur cette question. Mais à plus ou moins long terme, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité quand même de réduire la dette? Et si jamais la possibilité d'augmenter les impôts apparaît comme compliquée, comme susceptible de tuer la relance, est-ce que voilà la baisse des dépenses publiques n'apparaît pas comme l'une des seules solutions?
Oui, alors, votre première question, est-ce qu'il faut rembourser la dette? On a un mécanisme, en fait, l'État est le seul agent dans l'économie à pouvoir emprunter pour rembourser sa dette. Donc, on a ce mécanisme, on a hérité de ce mécanisme des Anglais au XVIIe siècle, et ça fait finalement 4 siècles qu'on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que une dette publique, elle n'a pas besoin d'être remboursée. Le stock n'est pas remboursé dans la mesure où moi, quand j'épargne et que je mets de l'argent sur un plan d'épargne, une partie va être allouée aux obligations de l'État français. Donc vraiment, parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y a une très grande partie qui détient de la dette française. Et quand elle vient à échéance, l'État est capable de rembourser l'épargnant, les créanciers, en allant chercher de l'argent de nouveau auprès de nouveaux épargnants. Donc juste pour le dire vraiment de façon, j'essaye d'être le plus pédagogique possible, mais c'est vraiment quelque chose qui revient en permanence dans les discours. Il faut rembourser la dette. Ben, non, en réalité, l'État roule sa dette. Et en plus, l'État français, comme l'État allemand et comme les États européens en ce moment, roulent leurs dettes de façon, dans des conditions extrêmement favorables, comme ça n'a jamais été le cas.
Donc, sauf que les taux d'intérêt pourraient remonter, Alexandra Roulet, et là, l'inquiétude sera plus justifiée peut-être.
Oui, non, mais je pense que c'est quand même très important de pas justement essayer de créer trop d'inquiétudes par rapport à cette dette. Et en fait, peut-être même vous parliez du moyen et du long terme. Je pense qu'à moyen et long terme, il faut se poser la question de peut-être repenser en fait notre cadre conceptuel budgétaire. Et c'est vrai qu'on a des règles au niveau européen, 60% du PIB, etc., la règle des 3%, etc., qui sont des règles très strictes, qui sont souvent débattues. Et en fait, cette pandémie pourrait être l'occasion de repenser tout ça et de se dire, est-ce qu'il faudrait pas mieux des principes au lieu d'avoir des règles? C'est-à-dire que, oui, se donner comme principe qu'après après cette grosse crise et cet endettement massif, on va essayer de remettre la dette sur des trajectoires plus soutenables. C'est sûr, on va pas, il faut quand même avoir certains principes qui guident l'action, mais ne pas essayer à tout prix de rentrer dans un carcan de discipline budgétaire en fait totalement inappropriée, puisque cette situation, on l'a dit maintenant plusieurs fois, mais elle est, tout le monde on a bien conscience, elle est sans précédent. Donc par définition, tous les cadres conceptuels du passé conviennent pas vraiment pour penser la situation, et donc ça peut être une occasion d'essayer de réfléchir de re-réfléchir à la façon d'approcher l'équilibre budgétaire, cette question de la dette publique, etc. Mais je pense que vraiment il y aura un consensus chez tous les économistes pour dire que il faut pas essayer de créer de l'austérité à très court terme en augmentant les impôts ou quoi que ce soit, parce que de toute façon toutes ces mesures là elles n'arriveraient pas du tout à, enfin je veux dire, l'ampleur du soutien qui a été débloqué à l'année 2020 est telle que c'est pas même en augmentant un tout petit peu les impôts qu'on arriverait à faire quoi que ce soit, et donc ça freinerait entraînerait la reprise, donc ça serait totalement désastreux. Donc c'est de toute façon une question de moyen et long terme, mais probablement l'occasion de repenser plus fondamentalement nos cadres de pensée de l'équilibre budgétaire.
Cela a quand même relancé parmi les économistes le débat sur l'annulation de la dette. Il y a une partie de notre dette en effet qui pourrait être annulée, c'est celle qui est détenue par la Banque Centrale Européenne, mais est-ce que ce serait vraiment utile, Anne-Laure Delatte?
Alors, il y a tout un tas d'options possibles pour essayer d'adresser ce stock de dette qui a augmenté de façon significative. Une des solutions qui est débattue à peu près uniquement en France, hein, c'est l'annulation de la dette auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc, pour le dire rapidement, la Banque Centrale Européenne a acheté beaucoup de dettes des États de la zone euro dans le cadre de sa politique monétaire, et aujourd'hui elle détient plus de 20% de la dette française. Alors, est-ce que ce serait une solution? Sachant que ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a des conditions d'emprunt qui pour l'instant ne sont absolument pas alarmantes, au contraire elles sont extrêmement favorables. Sachant que à moyen terme, on n'a pas de grandes craintes que ces conditions évoluent de façon radicale. Et sachant, troisième point, qu'on dépend énormément de la politique monétaire et de la crédibilité de la Banque Centrale Européenne, qu'on le veuille ou non, malheureusement, comme on opère assez peu le budgétaire aujourd'hui, finalement, l'essentiel de notre politique économique, elle tient grâce à l'action de la Banque Centrale Européenne. En fait, la politique monétaire et les banques centrales sont devenues des acteurs essentiels dans le fonctionnement de nos économies.
Mais ça pose aussi des problèmes, ça crée des dettes, des bulles, pardon, Anne-Laure Delatte, ça augmente par exemple le prix de l'immobilier.
Il y a plein de problèmes à ça, et donc je ne vais pas les développer tout de suite, mais en tout cas c'est un fait, la politique monétaire est devenue centrale. Et donc, vous avez prendre le risque d'annuler, en fait, annuler la dette auprès de la Banque Centrale Européenne, c'est un, la rendre encore plus centrale. En fait, c'est trouver une solution à la crise monétaire et uniquement monétaire, c'est rendre la banque centrale et la politique monétaire encore plus centrale dans notre fonctionnement économique. Et deuxièmement, c'est prendre le risque d'attaquer un bien public majeur qui est la confiance qu'on a dans notre monnaie. Et vous ne poseriez pas la question au banquier central argentin ou au gouvernement argentin s'il veut ou non annuler sa dette. Évidemment qu'il ne pourrait pas le faire parce qu'il ne bénéficie pas de cette confiance auprès des marchés. Est-ce que, tout simplement, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit content ou non, on a besoin de la Banque Centrale Européenne, et moi, je ne prendrais pas le risque d'entacher la confiance des marchés et donc d'emprunter à plus cher que ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ? Alors qu'on emprunte déjà, on emprunte aujourd'hui à des taux très favorables, et donc on n'a pas besoin de rembourser sa dette, on n'a pas besoin de l'annuler.
De faire rouler
en fait,
la dette.
Elle va s'annuler dans le temps, cette dette.
Alexandra Roulet, vous êtes d'accord avec cette idée que ce serait trop risqué à la fois politiquement et économiquement d'annuler la dette détenue par la Banque Centrale Européenne?
Oui, je pense pas que ce soit un sujet à très court terme. Je partage l'analyse que vient de développer Anne-Laure Delatte. Encore une fois, je pense que vraiment l'urgence, c'est de penser aux dettes privées, à la fois des ménages et des entreprises, beaucoup plus qu'à la dette publique. Il faut y réfléchir à cette question de la dette publique, mais pas à court terme, et plutôt en essayant de repenser un peu notre cadre de pensée au niveau européen. Pour être moins contraint d'être trop rapidement dans des mesures d'austérité. Mais je pense pas qu'il faille s'inquiéter de la dette publique. Et encore une fois, on est dans une situation totalement, totalement sans précédent. Donc c'est l'État qui a joué son rôle, en fait, en s'endettant de la façon dont il s'est endetté. Et je pense qu'on,
On comprend bien que toute la difficulté, c'est de gérer à la fois l'urgence et le plus long terme. Un dernier mot, Nadine Levrateau, sur les conditions d'une reprise économique en France en 2021. Donnez-nous quelques raisons d'espérer, Nadine Levrateau.
Des raisons d'espérer, ça risque d'être difficile, mais peut-être quelques pistes. Moi, il me semble que si on veut qu'une autre activité reprenne, une économie plus solidaire, plus soucieuse de la transition écologique, j'ai oublié les autres éléments de description d'Emmanuel Macron, il va falloir faire des investissements publics très importants dans le sens où la production des entreprises ne dépend pas que de leur situation individuelle, mais du contexte dans lequel elle se déroule. Et pour cela, et c'est ce que vend Business France lorsqu'il présente le pays aux entreprises étrangères, il faut des services publics de qualité, des systèmes de transport qui fonctionnent bien, des fluides, du gaz, de l'électricité à des prix compétitifs, un système de formation pour la main-d'œuvre qui soit performant. Et donc tout cet environnement des entreprises ne dépend pas que d'incitations individuelles, mais il dépend d'une politique publique, d'opérations collectives. Et donc c'est peut-être par là que le renouvellement du cadre de pensée dont parlait Alexandra doit creuser. Parce que on est au contraire dans des systèmes où on essaie de réduire tout ce qui relève du collectif et de l'environnement de la production, alors que de nombreuses études montrent que c'est dans un contexte qui est dense, où on trouve des ressources de qualité, que les entreprises ont le plus de facilité à croître, créer des emplois et créer de la valeur. Ensuite, il faut se demander quel type d'entreprise, mais en tout cas, ne pas oublier le contexte.
Les conditions.
Et surtout appeler à un grand plan d'investissement public, justement, pour mettre en place les conditions de cette production.
Créer les conditions pour favoriser la création de nouvelles entreprises. Anne-Laure Delatte, quelle serait la piste que vous privilégieriez pour cette relance économique en 2021 ?
Alors, en fait, moi j'essaye de faire un parallèle avec les 30 Glorieuses. Je l'expliquais à mes enfants, pour tout vous avouer. Ils me demandaient ce que c'était. Ils me disaient, mais est-ce que ça ne pourrait pas être les 30 Glorieuses après la crise, puisque finalement, on a eu... c'est presque une guerre, on a eu un arrêt brutal de l'économie, et est-ce qu'on pourrait pas espérer avoir une croissance pendant très longtemps et une reprise forte? Et je leur répondais que effectivement on peut faire un parallèle avec la guerre. En plus, on peut faire un parallèle avec les 30 Glorieuses dans le sens où il y a eu cette transformation structurelle de l'économie et de la société en général, avec l'avènement de la consommation de masse, des innovations majeures qui ont absolument radicalement changé l'image de la société, quoi, vraiment les structures de la société. Je pense que ma grand-mère vivait dans un monde qui était complètement différent du mien.
Donc le modèle des 30 Glorieuses pour s'inspirer pour cette année, Anne-Laure Delatte, c'est ça votre solution?
Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est ce qu'il faudrait, parce que aujourd'hui, il faut absolument qu'on transforme la société et qu'on produise et qu'on consomme sans émission carbone, de façon neutre. Et c'est ça qu'il faudrait, c'est-à-dire c'est pas des reprises... et penser qu'il va falloir 3% de l'activité en plus ou quoi, c'est qu'il va falloir complètement, radicalement transformer nos façons d'agir, notre consommation et notre production.
Merci.
Et en effet, il faut de l'investissement public pour ça.
Un grand merci à toutes les trois, Alexandra Roulet, Anne-Laure Delatte et Nadine Levrato, de nous avoir accompagnées tout au long de cette discussion particulièrement stimulante. Les liens vers les tribunes que vous avez publiées récemment sont à retrouver sur Twitter et sur le compte d'Entendez-vous l'écho et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Un grand merci. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Élise Leu. Demain, premier épisode de notre série sur l'économie d'un monde meilleur. Comment réconcilier santé et croissance? On posera la question à l'économiste Éloi Laurent. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.